Bonjour, c'est Marie Lalande au micro d'Imagémo à voix haute, épisode du 25 mai 2025. Aujourd'hui, en seconde partie d'émission à Dis-moi ce que tu lis, je reçois Lucie Vandal, enseignante de français et quatre de ses élèves en troisième secondaire à l'ESPAT, c'est l'école secondaire de Pointe-aux-Trembles, Clara Bessner, Lily Trottier, Cassandre Boulay et Maïka Daigneault. Ce sont elles également qui assurent la tribune littéraire Voici ce que j'en pense, puisqu'elles vont nous faire entendre le balado qu'elles ont réalisé et produit à propos du roman de Patrick Isabelle, Camille. Et on terminera avec quelques événements littéraires qui se vivent tout près de chez vous ou un peu plus loin avec les actualités littéraires. Mais d'abord, en première partie, dans les coulisses du livre, je reçois l'autrice Amélie Dumoulin et Virginia Houle de la librairie Le Repère à Grimby nous présente ses coups de cœur de libraire. Encore une fois, vraiment, tout plein de livres et de choses à découvrir sur la littérature jeunesse. Dans les coulisses du livre, c'est le moment de l'émission où on rencontre des gens qui font les livres jeunesse. Je reçois maintenant avec grand plaisir l'autrice Amélie Dumoulin. Bonjour Amélie.
Bonjour Marie.
Bienvenue à Imagémo à voix haute.
Merci.
Je te présente, on a décidé qu'on se tait dessus. Je te présente aux auditeurs et aux auditrices, Amélie. Oui. Tu es née en 1975.
Oui.
Ça veut dire que tu fêtes... T'es 50 ans cette année.
Voilà, oui.
T'as étudié en théâtre, t'es détentrice d'une maîtrise en études théâtrales de l'UQAM et t'es issue de la pratique théâtrale collective. T'as cofondé la compagnie de théâtre Joe, Jack et John, avec qui t'as participé à la création, à l'écriture de plusieurs pièces, mais également avec les compagnies Des mots de la dynamite et le petit théâtre de Sherbrooke. Le théâtre est toujours bien présent dans ta vie.
Oui.
T'es rédactrice au Théâtre français du Centre national des arts d'Ottawa et tu enseignes la création théâtrale à des artistes professionnels en situation de handicap aux Muses,
voilà, oui.
Au Centre des arts de la scène.
Oui.
Et parallèlement, tu as publié en 2015 chez Québec Amérique un premier roman jeunesse, Fée, M, la lettre M,
oui.
Qui a obtenu l'année suivante le prix des libraires et en a eu quelques autres, des livres ensuite, dont on va parler tout à l'heure. Là. Mais d'abord, dis-moi, qu'est-ce qui t'a mené du théâtre à l'écriture de romans et d'albums pour la jeunesse?
Un hasard, comme ça arrive souvent dans la vie. Alors, j'étais tout à fait confortable dans ma vie d'autrice pour le théâtre.
Ouais.
Mais un jour, mon conjoint de l'époque, qui est toujours mon conjoint d'ailleurs aujourd'hui, cherchait à créer une sorte de maison d'édition électronique.
Mm-hmm.
Et il avait besoin d'un texte un peu expérimental pour la lancer. Donc, il m'a dit un peu entre deux chaises, mais pas entre deux chaises, on était sur le sofa dans mon salon. Il m'a dit, écris-moi, s'il te plaît, sachant que j'ai quand même l'écriture fluide et libre et facile. Il m'a dit, écris-moi, s'il te plaît, un petit livre jeunesse, là, un truc pour ados, ça pogne les affaires pour ados. Tu m'écris ça, puis je fais mes petits tests avec pour voir si je peux lancer ça en ligne, comment ça fonctionne, l'édition en ligne. Et au moment où il m'a dit ça, le titre est tombé dans ma tête comme vraiment une réalité. Là. Il est apparu dans ma tête, Fée, M. Fée.
Oui.
J'ai tout de suite découvert mon personnage. Je le voyais, puis j'ai vu apparaître un peu dans le flou toute une bagatelle de personnages secondaires. On dirait que c'est un peu comme si Fée et les personnages qui l'accompagnent étaient un peu dans un genre de line-up et attendaient juste là, que quelqu'un me propose ça pour ouvrir.
On est prêt.
Voilà. Fait que l'écriture s'est faite dans l'absolu bonheur.
Ah oui.
Puis après ça, quand quand j'ai terminé, j'ai mis le point final. J'ai dit à mon chum, je veux pouvoir tenir le livre dans mes mains,
mm-hmm.
Je veux pouvoir sentir son odeur.
Oui.
Ce qui n'est pas possible dans une publication électronique.
Mais non, que ce soit un objet alors.
Voilà.
Ah oui.
Alors, je l'envoyais à des maisons d'édition, puis il y en a deux qui l'ont accepté.
Formidable.
Ouais.
Si tu avais à choisir comme créatrice,
ouais.
Qu'est-ce qui resterait dans ta vie, le théâtre ou les livres?
Demandez-moi de sauver un seul de mes trois enfants.
C'est ça. Ça se peut pas.
C'est absolument cruel.
Oui.
Mais je dois dire que effectivement, j'étais confortable dans mon aquarium de théâtre collectif. Il reste que c'est un art de partage et de compromis.
Ouais.
On n'est jamais le héros total de son monde. On doit travailler avec plusieurs univers. Et donc, là, l'écriture, dans ma cabane d'écriture, être le boss de mon univers, décider, mm-hmm. Hey, moi, je fais passer un éléphant en pédalo dans mon histoire, puis personne ne peut rien dire. C'est jusqu'au ça. Moment où je le présente à l'édition.
Oui, là, il y a quelqu'un qui dit.
La cabane secrète d'écriture, pour moi, ça a été une grande découverte. Puis vraiment, cruellement, si j'avais à choisir, je choisirais la littérature pour ça.
Mais le théâtre est toujours...
Mais le théâtre, ça reste... J'ai des frissons juste de dire
oui.
ce mot-là. Ouais.
Ben oui. Moi, j'aimerais qu'on revienne sur Fée,
ouais.
le personnage de Fée aime Fée, qui revient dans Fée verte,
oui.
qui est paru, lui, en 2017, toujours chez Québec Amérique. Et lui a obtenu le prix Alvin Bellil ouais. l'année suivante. C'est deux romans qui ont eu un grand, grand succès. Félicitations.
Merci.
Est-ce que tu peux nous raconter Fée?
Bon, Fée, c'est une jeune fille qu'on découvre au début du roman. Elle a la quinzaine, elle ouais. va avoir 16 ans à la toute fin du roman. Et puis, c'est une créature d'un quartier à Montréal qui s'appelle le Myland, ouais. un quartier extra-multiculturel où on mange les meilleurs bagels au monde.
Disons-le.
Puis, Fée est habitée par ce quartier-là, c'est-à-dire qu'il va être tout le long du roman, le quartier est presque un personnage, mm-hmm. hein, le Myland. Et on la découvre avec sa famille un peu brinque-ballante d'artistes. Sa mère coud des t-shirts weird qu'elle vend partout dans le monde, au Japon, partout. Et puis, donc, elle est dans le domaine du tissu. Puis son père, il a un boulot alimentaire, mais il rêve
mais
d'être...
Il fait de la musique.
Oui, c'est oui. ça, il rêve d'avoir son band. Et fait dans ce milieu-là un peu excentrique, un peu artiste, et elle découvre un micro-salon de coiffure dans un espace industriel.
Chez Rosa.
Oui. Et dans ce micro-salon de coiffure, il y a Félix, une jeune fille un petit peu plus vieille qu'elle, punkette, un peu, mm-hmm. un peu punk, avec une vie un peu, bon, spéciale, et qui coupe ses cheveux, qui coupe ses cheveux, oui. pardon. Et Fée, elle va comme tranquillement pas vite sentir qu'elle a de plus en plus besoin de mise en pli, si vous suivez
oui, oui.
Ma réflexion.
Elle devient amoureuse.
Elle devient amoureuse. Oui. Et en même temps, elle a un crush de toujours sur son meilleur ami, mm-hmm. Yann. Et c'est un peu l'espèce d'espace là, du cœur brûlant des adolescents où on est en quête, on sait pas trop qui on est et puis tous les possibles sont ouverts.
Oui, oui, oui. C'est vraiment une très, très belle histoire. Y a-t-il un lien entre l'épais chat de Beauvril, Je recommence. L'épée de chat Beauvril, c'est comme ça que c'est dit dans le livre, qu'on rencontre dans Fée, et celui de l'album pour les plus petits, qui s'appelle, lui, Chat épais, qui est illustré par Miville Deschênes,
ouais.
et qui est paru l'an dernier, en 2024, chez Québec Amérique.
Ça, c'est une question incroyable. J'avais jamais fait lien, donc merci Marie, je trouve ça super brillant de faire ces magnifiques liens. Donc, Beauvril, c'est un gros gâteau de poêle orange hein, qu'on retrouve dans Fée, qui est un chat tellement épais, mais en même temps intelligent, parce qu'il a découvert qu'il peut absolument rien faire et tout le monde va le prendre en charge et puis le déplacer. Tandis que du côté de mon chat épais, que j'ai fait avec Miville Deschênes, qui est un ami d'enfance, on s'est connus à l'école Jacques Rousseau à Longueuil au secondaire,
okay.
on avait 15 ans et des boutons. Et puis, donc, c'était vraiment spécial de se découvrir en or, pas juste en amitié. Puis, ben avec Miville, on avait encore cet amour-là des chats qui revient. Des
oui.
animaux en général dans oui. mes livres. Il y a des fois même...
C'est présent, ça,
dans mon
temps,
dernier
ouais.
livre, Diamantante, même l'éditrice Carole Tremblay de la
Courte
Échelle m'a dit, bon, il y a un peu trop d'animaux, il faudrait en couper, Amélie.
Oh,
il fallait que je coupe des animaux. Donc, voilà, il y a l'amour des animaux, mais ce que j'aime des chats particulièrement épais, c'est qu'ils ont un droit absolu d'exister.
Oui.
De juste s'étendre dans la nature, répandre leur graisse au soleil et être beau et complet.
Des chats, en fait.
Et donc, je pense que c'est quelque chose auquel je rêve dans ma vie.
On voudrait être des chats.
On voulait
avoir
des
une
chats.
Vie de chat, effectivement. Donc, tu le disais, les animaux ont une grande ouais. place dans ton roman aussi, Pipo,
ouais.
qui est illustré par Todd Stewart. C'est paru en 2019 chez Québec Amérique.
Ouais.
Et lui, il s'adresse aux 9 ans et plus. Il y a sportif,
oui.
le rat obèse,
oui.
mais aussi tous les animaux que la pétillante Pipo rencontre au fil de ses aventures. Comment on résume ça, cette histoire? C'est singulier, mais c'est une histoire touchante. Ouais. Et les liens qui lient les personnages, les enfants, les adultes, en quelques mots?
Oui. Donc, c'est irrésumable, cette histoire. C'est absolument touffu, mais c'est voulu un peu comme ça. C'est une lecture foisonnante. Mais je dirais en gros que c'est un hommage fulgurant à Astrid Lindgren et à son personnage Fifi Brindacier.
Oui, oui. Parce qu'elle est forte, Pipo, comme elle, hein?
Oui, c'est ça. Donc, faut savoir. Oui, c'est ça. Et puis, c'est l'héroïne de mon enfance. Et tout comme Pipoletta, Pipo, Fifi est un peu en attente de son père qui n'arrive jamais au point où on pense qu'il n'existe pas vraiment. Mm-hmm. Et finalement, le père arrive. Et puis, bon, il est un peu magique, un peu fabuleux, puis en même temps, un peu décevant.
Il est bien décevant. Oui.
Donc, c'est la même chose pour mon personnage de Pipo. Donc, et puis, je dirais que le cœur de l'histoire, c'est de. Quand notre famille est décevante, quand papa, maman ne nous donne pas ce qu'on a besoin, il y a moyen de se fabriquer sa propre famille.
Ah oui, voilà. Et d'en faire un monde qui nous convient.
De créer le monde avec les rencontres, les amis, voilà.
Je voudrais en lire un petit bout, vraiment très, très court, à la page 42. Mais malgré tout ce chaos explosif, le temps, lui, continuait son avancée régulière d'animal lourd. Et le dimanche suivant est arrivé à la seconde près. J'aime tellement ça. J'aime vraiment ça. Le style est vif. L'écriture, c'est poétique. J'ai beaucoup apprécié l'utilisation de la couleur, de la typographie dans le livre, parce que c'est vert quand c'est la narratrice mystère qui parle, et c'est noir quand on suit l'histoire au quotidien. Qu'est-ce que tu peux nous dire de ce choix-là d'autrice?
Pour moi, c'était une évidence. Comme le récit est très foisonnant, j'avais envie de donner des clés instantanées rapides pour mes petits lecteurs et lectrices. Donc, effectivement, quand c'est noir, on est vraiment dans le cœur du récit. On suit Pipo vraiment sans aucun recul. Quand on est dans le vert, on est dans une lecture un peu plus omnisciente de l'autrice. Puis, elle se permet de commenter, même de dire « Non, Pipo, fais pas ça, va pas là, c'est pas une bonne idée.
» Donc,
on a comme le double récit. Puis, je trouvais ça intéressant de les avoir, même d'avoir un peu mon regard surplombant d'auteur dans le récit. Puis on a aussi une partie en bleu qui nous parle d'un chapitre qui était passé, de quelque chose qui s'est passé dans la vie de Pipo plus tôt. Oui. Donc, c'est vraiment pour donner des clés rapides, instantanées aux plus jeunes lecteurs.
C'est très, très efficace. Tu as aussi écrit Kid. Oui. C'est un album illustré par Émilie Leduc. C'est paru en 2019 chez Québec Amérique. Ce livre-là, il est classé dans la collection des albums Coup de poing dans les bibliothèques de la Ville de Montréal. Pourquoi, d'après toi, pourquoi on devrait accompagner les jeunes dans cette lecture?
Donc, c'est un livre qui peut se lire au très premier degré, avoir du fun. C'est un enfant que tout le monde, tous les adultes traitent comme une plante, au point même qu'on l'arrose. Hein? Le livre des illustrations qui brillent dans le noir, des petits messages cachés, il y a quelque chose de très sympa, puis avec un lectorat de 8 ans, on peut juste s'amuser avec. Mais effectivement, dès qu'on va un petit peu plus loin dans le récit, c'est un livre qui parle aussi de maltraitance,
d'abandon.
Et souvent, les lectrices et lecteurs qui viennent à mon kiosque qui me disent « J'ai adoré tes livres, mais pour moi, c'est kid », je me rends compte que parfois, sans le savoir, ces personnes-là parlent aussi d'eux-mêmes, puis de leur enfance. Et puis, j'avais envie de traiter ça, mais on dirait qu'au final, le message derrière kid, c'est vraiment « Le vivant gagne tout le temps à la fin. »
Il y a de l'espoir à la fin.
Ouais.
Plus récemment, en mars 2025, c'est vraiment tout récent, est paru Diamant tendre à la courte échelle, on en a parlé. C'est un roman qui s'adresse aux ados de 14 ans et plus. C'est un lecteur avisé, puisqu'il est question de sexualité dans ce livre-là. C'est un livre de la collection Micro qui propose de courts récits dans une langue parlée, et ce dans quoi tu excelles. On est dans la tête, dans les pensées d'une jeune ado de 14 ans, dans son chaos personnel, et on découvre son secret. C'est un livre qui était d'abord du théâtre audio-immersif.
Oui.
Qu'est-ce que ça veut dire?
Que ça mange en hiver.
Oui, c'est ça.
Donc, le Diamantante, ça vient vraiment d'une pulsion que j'avais, jeune vingtaine, dans mon premier appartement. Je regardais la rue, à l'époque, ça s'appelait la rue Amherst. Et puis, je voyais passer les gens sur la rue, puis je me disais, mon Dieu, on dirait des personnages. On dirait que ma rue est un décor. Puis même, je me disais, est-ce que je pourrais, par la pensée, modifier le cours ou faire un speech un passant qui s'arrête puis qui se met à réciter du Racine ou des choses comme ça. Mm-hmm. C'était toute mon envie d'amener mon esprit sur la rue. Et donc, j'ai eu la chance avec le Petit Théâtre de Sherbrooke, ouais, avec la metteur en scène Erika Tremblay-Roy, d'aller vraiment au bout de ce projet-là. J'ai fait des chantiers avec deux adolescentes. Méliane Lagrandeur a terminé le projet. On était dans le stationnement du Roi du Coq-Rôti, oui, sous une tente, en gradin. Les spectatrices, spectateurs avaient des écouteurs sur les oreilles et ils voyaient la rue. On fermait pas la rue, là. Tout ce qui se passait en temps réel faisait partie de la fiction. Ouais. Et tout d'un coup, on avait accès à la voix d'une adolescente. On savait pas où elle était. Puis on avait même l'impression qu'elle était parmi nous, avec nous. Ouais. Puis il y avait vraiment tout le temps cette tête d'autruche qui se tournait pour essayer de trouver où est-ce qu'elle est planquée. C'était très drôle pendant la représentation. Et mon but, c'était d'accéder non pas à sa parole, mais à sa pensée. Une pensée, c'est hachuré, c'est foisonnant, c'est fractionné, c'est étrange, c'est chaotique. Ça n'a rien à voir avec l'effort qu'on fait pour mettre dans notre bouche notre pensée, donc la changer en parole. Puis j'avais le goût, dans l'écriture, de travailler le flot de la pensée dans une deuxième partie avec Carole Tremblay.
C'est vraiment intéressant. Moi, je m'en voudrais de ne pas parler de ton expérience avec les jeunes du secondaire de l'école Jacques Ouellette. C'est une école de Longueuil pour non et malvoyants. Tu as obtenu en avril 24 la bourse Paul Davelui et tu as fait une résidence d'écriture auprès de ces jeunes. Qu'est-ce que ça t'a permis de réaliser comme créatrice?
Donc, je veux juste ajouter que je suis encore, depuis cette bourse, à l'école Jacques Ouellette parce que le ministère de la des cultures et de la communication du Québec le ministère, m'a offert une bourse pour que je puisse aller faire une initiative qui s'appelle les Midi J'écris, et donc d'offrir des ateliers de théâtre, de poésie sur l'heure du dîner en loisir à ces jeunes-là.
Ouais.
Ça l'a complètement débordé. Je suis rendue dans toutes les classes un peu tout le temps. Je suis pas capable de faire juste l'aspect loisir, mais c'est un moment pour moi de grâce absolue. Je changerais pas ma place pour nulle part au monde, parce que travailler avec les personnes malvoyantes, non-voyantes, c'est accéder à des gens qui vivent par d'autres sens.
Ouais.
Et moi, je dis souvent que je suis une aveugle voyante, parce que pour moi, l'ouïe, l'odorat, le toucher sont 100 fois plus importants dans mon vécu, mon quotidien, puis même dans mon écriture, que la vue.
Et ils t'ont donné des idées aussi pour ton prochain livre.
Et c'est ça. Et je suis en train d'écrire tranquillement, pas vite, un livre qui s'appelle Beauté Foule, qui est un roman pour adolescents où on va suivre le road trip d'une adolescente aveugle, non-voyante. Et puis, ils me coachent là, vraiment beaucoup pour rendre véridique l'histoire de mon personnage.
Alors, on les salue. Et moi, je salue aussi la sensibilité que tu as à la réalité des humains qui vivent avec un handicap, parce que c'est ce que tu fais aussi aux Muses avec les professionnels en situation de handicap. Amélie, c'est la tradition à Imagémo à voix haute. On demande aux invités de nous proposer un de leurs coups de cœur littéraires jeunesse. Est-ce que tu as une suggestion
Bien
pour
sûr.
Nous?
Alors, je voulais vous proposer Les enfants brocolis de Mylène Goupy. Donc, c'est une collègue et amie. Elle a publié ça chez Québec Amérique. C'est une sorte, pour les lectrices et lecteurs de Pipo, c'est une sorte de Pipo, mais qui est plus en mode quête de la mer. Puis je dis pas ça dans le sens, mais c'est juste, c'est fabuleux. La langue de Mylène est très différente de la mienne. On est vraiment dans une sorte de pudeur. On est au service du récit. On suit un personnage en montgolfière. C'est une aventure fulgurante. Puis en même temps, c'est à nous de décrypter toutes les petites émotions puis les secrets qui se cachent derrière les mots.
Formidable.
Tout n'est pas donné.
Alors, Les enfants brocolis, chez Québec Amérique, de Mylène
Goupy.
Merci beaucoup pour ton humour, Amélie.
Merci
pour
Marie,
le temps passé avec
accueilli.
Nous. Merci pour ton humanité, pour cette immense sensibilité dont tu fais preuve, pour la poésie qui émaille ta prose, pour les personnages attachants et empathiques que tu nous proposes et que tu amènes dans nos vies de lecteurs.
Merci
au plaisir de
beaucoup,
te lire
Marie,
encore.
Au plaisir.
Bonjour, je m'appelle Arwa Slaoui, j'ai 15 ans et mon dernier livre coup de cœur est « Ce que le jour doit à la nuit » de Yasmina Kadou, car selon moi, il aborde parfaitement le thème de l'amour et de l'aventure.
Bonjour, je m'appelle Clémence Gauthier, j'ai 14 ans. Mon dernier livre coup de cœur a été « Jamais plus » de Colin Hoover, car selon moi, la violence conjugale était très bien abordée, plus l'amour qui est ajouté.
Bonjour, je m'appelle Emma, j'ai 14 ans, et mon dernier livre coup de cœur, c'est « Nous, les mentors » de E. Lockhart. J'ai adoré ce livre parce qu'on suit l'histoire d'une fille qui sort du déni après un accident très grave.
La chronique coup de cœur des livres.
On accueille maintenant Virginia Houle, libraire jeunesse à la librairie Le Repère, située à Granby. Bonjour Virginia.
Bonjour Marie.
Au moins 1000 merci Virginia, parce que vous avez pris la balle au bon et accepté de préparer cette chronique à quelques jours d'avis seulement.
Ça me fait plaisir.
Vraiment, ben vous nous faites toujours des suggestions pertinentes et adaptées. On a très, très hâte d'entendre celle d'aujourd'hui. On vous écoute.
Bien. Comme on est en plein cœur du printemps, la nature s'éveille, le soleil se réchauffe, les feuilles, les fleurs, ça commence à sortir. Fait que là, ça m'a inspiré dans mes choix de livres que je voulais présenter aujourd'hui.
Ça fait du bien.
Oui. Alors, je commence avec une nouveauté qui est vraiment chouette, qui est éditée chez Bayard Canada, qui s'appelle « Du jardin à ton assiette ». Il est écrit par Jasmine Cubaillat-Racine, puis illustré par Maude Robichaud-Godin.
Mm-hmm.
On suit Cali, qui va aller donner un coup de main à sa mamie pour la préparation de son jardin. Le livre est un peu comme un calendrier. Il se déroule de mai, en fait du printemps jusqu'en décembre. Mm-hmm. Puis à chaque page, on voit le mois. Puis on voit aussi ce qui va pousser dans le jardin, ce qui doit être planté. C'est vraiment intéressant. Puis la page de droite doit être dépliée. Puis on voit une recette qui est adaptée avec le fruit ou le légume du moment.
Ah, c'est génial!
Oui, c'est vraiment beau. Puis, bon, évidemment, ça donne le goût de cuisiner, de jardiner.
Mm-hmm.
Puis ça présente vraiment... d'où viennent les fruits et les légumes, parce qu'ils n'arrivent pas directement de l'épicerie.
Non, malheureusement, c'est pas là que ça pousse.
Non, exactement. Fait que ce livre-là, c'est vraiment une très, très belle découverte.
Ouais.
Puis moi, je me promets de faire la compote fraise rhubarbe qui est présentée en juin et le beurre à l'ail qui a plein d'autres aliments que de l'ail dans le beurre. Puis celui du mois d'octobre, si je me souviens bien, c'est certain que je vais les faire.
Wow! Ben, c'est vraiment, ça attire ma curiosité.
Oui, il est très beau aussi. Puis il est adapté vraiment pour, je pense qu'à partir de 3 ans, mais tout le primaire, peu importe l'âge, là, il est intéressant.
Excellente suggestion.
Ensuite, je reste dans le même thème que le jardin, mais là, on est complètement ailleurs. C'est plus une histoire d'amour qui s'appelle « Le jardin de Monsieur Kuroki », qui est écrit par Anne Renault et illustré par O'Hara L. Il est édité chez Monsieur Ed.
Mm-hmm.
Toute leur vie, Monsieur et Madame Kuroki ont eu une ferme, puis ils rêvaient un jour de voyager, d'aller dans plein de pays, de découvrir des langues qu'ils ne connaissaient pas. Mais malheureusement, Madame Kuroki a perdu la vie. Pas la vie, pardon, la vue.
La vue, c'est ça, oui.
Oui, la vue. Qui est tout aussi dramatique, mais elle est en vie.
Ouais.
Et puis là, elle a perdu son sourire, sa joie de vivre. Ça l'attristait beaucoup, M. Kuroki. Mm-hmm. Puis il essaie de trouver une façon de faire en sorte que sa femme retrouve un peu de bonheur.
Mm.
Puis il a créé un immense jardin de fleurs. Tellement gros, tellement beau, qui a attiré plein de gens, des centaines, des milliers de gens de partout dans le monde, qui évidemment parlaient plein de langues différentes, qui venaient voir les fleurs, mais aussi rencontrer Monsieur et Madame Kuroki.
Mm-hmm.
C'est vraiment un album rempli d'amour, de partage, de compassion. Puis c'est aussi inspiré d'une histoire vraie.
Puis j'ajoute un détail, Virginia. Ce livre-là est exposé actuellement à la Bibliothèque municipale de Shintomi au Japon.
Ah,
c'est
oui.
Anne Renault qui a écrit ça sur sa page Facebook. Je trouvais ça bien
intéressant. C'est génial.
Ouais.
C'est magnifique, cet album-là.
Oui.
Je poursuis ensuite avec « Respecte les insectes »
oui.
par Jules Howard et Gosia Herbia, qui est édité chez Multimonde. Mm-hmm. C'est un documentaire, j'aime beaucoup les documentaires, et c'est sur les insectes. Bon, des documentaires sur les insectes, il y en a, oui. a plein. Mais celui-là, c'est vraiment sur l'importance de l'insecte en particulier pour notre planète. Okay. Tout ce qu'il apporte,
son
tout
utilité.
Ce qu'il nous apporte. Il est magnifique. J'aime comment il est divisé aussi, comment que les insectes sont présentés. C'est très drôle. Mm-hmm. Puis, même si c'est un album, moi, je crois qu'il peut être lu comme un album. J'ai dit, même si c'est un documentaire plutôt, oui. il peut être lu comme un album. C'est sûr, pas en une soirée, là, mm-hmm. mais plusieurs chapitres à la fois. Puis, c'est les curieuses et les curieux, là, ils vont être servis. Là. Il y a beaucoup d'informations, c'est dynamique, c'est humoristique. Puis, j'ajouterais une petite confidence ici. Mm-hmm. Quand j'ai terminé le livre, j'ai réalisé que plus de la moitié des informations, j'ignorais totalement.
Oh mon Dieu, alors on apprend plein de choses.
Oui, même les adultes ouais. vont être servis. Oui.
Vous aviez dans votre petite poche en arrière deux autres titres dont vous vouliez parler rapidement.
Alors, oui, bien rapidement, comme j'étais dans la thématique jardin, insectes.
Ouais.
Je ne peux pas passer à côté de la bande dessinée d'Iris Boudreau aux 400 coups, qui est Gervais et Conrad,
ouais.
qui est comme une adaptation de La cigale et la fourmi, mm-hmm. mais d'une façon très, très humoristique, qui est pour les plus vieux, je dirais 8 ans et plus. Puis,
à la manière de Iris Boudreau.
Extrêmement drôle.
Ouais.
Ah oui, oui, oui.
Et
vraiment,
puis, un
là.
Petit dernier pour la route?
Bien, Colette n'a besoin de personne. En fait, ça ne parle pas de jardinage, mais c'est juste un insecte, une abeille. C'est par Jean-François Sénéchal et Pascal Bonenfant. C'est comme des jardins.
Comme des géants.
Comme des géants, oui.
Mais on est dans le thème des jardins, c'est oui. ça l'affaire.
Puis, c'est Colette qui pense qu'elle a besoin de personne, est capable de tout faire tout le temps, mais elle va réaliser que le groupe, l'entraide, ben des fois, ça mène un petit peu plus loin, puis ça fait qu'on ça crée des amitiés aussi. C'est vraiment une belle histoire.
Ah, ben parfait! Et tous ces titres, Virginia, les auditeurs vont pouvoir en trouver les références sur le site de l'émission. Je vous remercie encore une fois, chère Virginia, au plaisir d'une prochaine
Merci.
Rencontre.
Merci. Au revoir.
Au revoir.
Je m'appelle Maïka Daigneau et j'ai 15 ans. Mon dernier livre coup de cœur, c'est La Maison des Feuilles de Marc Z. Danielski. J'ai adoré parce que c'était mystérieux et c'est le but de l'auteur de nous garder dans le mystère.
Restez avec nous. Après cette courte pause, je reçois Lucie Vandal et ses élèves de 3e secondaire de l'ESPAT, Clara Bessner, Lily Trottier, Cassandre Boulay et Maïka Daigneau. Et ce sont elles également qui présentent la tribune littéraire Voici ce que j'en pense, puisqu'on écoutera leur balado à propos du roman Camille de Patrick Isabelle. Et il y aura des actualités littéraires. À tout de suite. Bienvenue à cette seconde partie d'Images et mots à voix haute.
Dis-moi ce que tu lis.
Dis-moi ce que tu lis, c'est le moment de l'émission où on rencontre des gens qui œuvrent tout autour du monde de la littérature jeunesse et aussi des jeunes qui la lisent. Aujourd'hui, j'accueille avec plaisir Lucie Vandal, enseignante de français à l'école secondaire de Pointe-aux-Trembles. Appelons-la l'ESPAT.
Oui.
Et quatre des élèves de sa classe de troisième secondaire, Clara Bessner, Lily Trottier, Cassandre Boulay et Maïka Daigneau. Bonjour à vous.
Bonjour.
C'est un plaisir de vous recevoir ici. Bienvenue à Images et mots à voix haute. Lucie, qu'est-ce qu'on peut dire de l'ESPAT, l'école secondaire de Pointe-aux-Trembles?
Bon, on peut dire que c'est la plus belle et la meilleure école. Mais si on y allait un peu...
Objectivement,
c'est une école qui est située à l'extrémité est de Montréal, dans le quartier Pointe-aux-Trembles. Mm-hmm. C'est une belle polyvalente. Qu'on appelle, ben, qui était autrefois la Polypath, hein, qu'on ouais. appelle aujourd'hui l'ESPAT pour École secondaire de la Pointe-aux-Trembles. Elle est magnifiquement bien située, tout près du parc nature de la Pointe-aux-Prairies.
C'est très,
donc,
très beau.
Oui, moi, les élèves pourront en témoigner. En début d'année, on s'en va faire de la création dans le parc. C'est un beau terrain. Hein. Il y a beaucoup de verdure, beaucoup d'arbres autour de cette école-là. C'est une école qui compte un peu plus de 1600 élèves de la première à la cinquième année du secondaire.
Quand même.
Qui viennent de tous les milieux. Pour ceux qui connaissent les cotes, là.
Oui, de défavorisation.
Oui, de défavorisation, pardon. On est autour de 8 ou 9. Là.
Donc, c'est presque le maximum.
C'est presque le maximum.
Ouais.
C'est un quartier qui a beaucoup changé dans les dernières années. Hein. On a accueilli beaucoup d'immigration.
Mm-hmm.
Donc, il y a une trentaine d'années, quand moi, j'ai amorcé ma carrière là-bas, c'était en très grande majorité là, ce qu'on appelle le caucasien
de francophone blanc
de ouais. souche. Mmh. Maintenant, on reconnaît dans les corridors beaucoup de communautés.
Mmh.
Et c'est intéressant.
Mmh.
Hein, ça apporte une autre teinte à la culture de notre belle école.
Mais c'est tant mieux.
Oui, absolument.
Excellent, excellent. Donc, dans l'Est, il y a quand même beaucoup de 1500?
Un peu plus de 1600.
Hein, OK.
Parce qu'on est un petit peu victime de notre popularité, je dirais.
Ah oui?
Oui. On offre des beaux programmes
oui.
à l'ESPAT. En première et deuxième secondaire, les jeunes sont appelés à faire un choix à nouveau des volets.
Mm-hmm.
Alors, on peut parler de plein air, musique, multisport, arts médias, sciences, musique, et ainsi que le volet qu'on appelle le volet enrichi qui se nomme « davantage ».
OK, c'est le programme davantage.
Oui, c'est tout ça. À fait.
Ah, intéressant. Avec votre collègue, d'ailleurs, parlons de programme particulier, avec votre collègue Caroline Bossé, vous proposez à certains élèves qui en font le choix un programme spécial et interne à l'ESPAT, le programme Français, Culture et Société.
Exact.
Qu'est-ce que c'est? Puis en quoi ça se démarque du programme régulier de français?
Alors, c'est un programme qui est offert en 3e, 4e et 5e secondaire en français. Pour faire l'histoire à l'envers, là, Français Culture a donné naissance par la suite au programme davantage. Donc, nous, toutes les deux, on s'est assises puis on dit qu'est-ce qu'on aimerait avoir, nous, jeunes élèves de troisième secondaire, comme cours.
Mm-hmm.
Puis ayant un petit penchant pour la culture montréalaise et internationale, on a dit, bien, si on arrivait à joindre tout le côté culturel, mais aussi la partie d'intérêt sur... C'est qui la société de Montréal,
okay.
la société québécoise? Qu'est-ce qu'elle a à nous offrir?
Mm-hmm.
Donc, on essaie de faire à travers les cours, avec le prescriptif du cours de français, d'aller un tantinet plus loin. Donc, ces jeunes-là qui ont choisi ce cours-là, ce sont des jeunes qui sont curieux, qui aiment évidemment lire, écrire. Et ça, on les amène à découvrir ce qui se passe à Montréal au niveau culturel. Donc, on va à l'opéra, par exemple, demain soir.
Ah oui, qu'est-ce que vous allez voir demain
la
soir?
La bohème de Puccini.
Oui.
Oui. On va voir des spectacles de danse. On va au Musée des beaux-arts. On reçoit de spectaculaires animatrices de radio en classe. dans quelques semaines, on reçoit un auteur en classe aussi, Jonathan Arnois,
oui.
pour ne pas le nommer.
Mm-hmm.
Et on essaie comme ça là, de toucher, ce qui nous permet, parce que dans mon horaire, j'ai, dans mon cycle de 9 jours, 2 cours collés. Donc, j'ai un après-midi complet.
Avec plus de temps.
Oui, où on a 2h30. Alors, j'ai pas de permission à demander à aucun de mes collègues. On peut quitter, on peut recevoir, ça déborde, c'est pas grave. Donc, c'est un programme où on propose d'aller un peu plus loin que le prescriptif du cours de français.
Et donc, on en a 4 de vos élèves ici. Pourquoi, on va y aller une par une, pourquoi vous avez choisi ce programme? Qu'est-ce qui vous plaisait dans ce programme-là? Vous êtes en secondaire 3, c'est la première année. Qu'est-ce qui a le goût de commencer, Maïka?
Oui, alors... Moi, personnellement, j'ai toujours assez aimé le français. C'est une matière avec laquelle j'avais de la facilité, autant dans l'écriture, et j'aimais beaucoup lire dans mon temps libre. Donc, c'est un peu pour ça que j'ai choisi français culture. C'était une option que j'avais, puis que j'ai au final bien appréciée.
Ah oui, t'aimes ça? OK. Qu'est-ce qui continue? Clara?
Ouais, ben justement, comme Madame Vandal l'a dit, on a beaucoup de sorties, puis on aime beaucoup aller voir de la danse, l'opéra et tout ça. Puis c'est quelque chose que j'aime beaucoup, surtout c'est les travaux d'équipe. Donc,
ouais.
Je voulais me mettre là-dedans.
Oui, d'accord. Puis Lily, toi, qu'est-ce que ça t'apporte? Pourquoi tu as choisi ce programme-là?
Personnellement, je suis une personne de nature très curieuse. J'aime toujours en apprendre plus si j'ai l'option. Alors, quand j'ai vu que j'avais le programme Français Culture, j'ai dit que c'était un bon choix pour moi.
Oui, puis tu ne le regrettes pas?
Non.
C'est bon. Puis on termine avec toi, Cassandre.
Moi, j'ai décidé d'y aller parce que ça me tentait de voir des nouvelles choses, en apprendre plus et aussi pour les sorties parce que c'est quand même assez intéressant et amusant.
C'est varié.
Mm-hmm.
Intéressant. Alors, qu'est-ce que cette année vous avez proposé, Lucie, différentes lectures aux élèves dans ce programme-là? Donc, qu'est-ce que c'est les lectures que vous avez proposées puis comment vous les avez accompagnées dans ces lectures? Parce que c'est pas tout, là. Vous lisez ça puis c'est tout.
En effet. On a amorcé l'année, et je rigole parce que j'adore, c'est un recueil de Michel Tremblay qui se nomme « Contes pour buveurs attardés ». Et là, je vois les yeux de mes élèves parce que pour l'amorcer, je leur ai fait la lecture de la 13e femme du baron Clogg.
Oui, et là, moi, j'ajoute qu'il y a Raphaël Baillargeon, qui est une de vos élèves, qui est venue en parler en tribune littéraire à l'émission de cette expérience-là.
D'accord. Oui, parce que à ce moment-là, au début d'année, on est dans l'étude du conte merveilleux, fantastique, mythologique. Tremblay, c'est un incontournable.
Ben oui.
Il en va de soi. Et ce recueil-là, c'est 25 contes qui vont dans tous les...
toutes les directions.
Ah, dans toutes les directions. C'est à la fois amusant, intriguant. Il y a des contes avec lesquels on doit réfléchir parce qu'on se dit où il veut nous amener?
Mm-hmm.
Qu'est-ce qu'il veut passer comme message? Mais ça va, c'est intéressant. Puis on n'a pas à lire dans l'ordre, on choisit.
Ben oui.
J'ai moins envie de lire, je vais en prendre un plus court. On va vers plus long. Et moi, c'est ça, je me suis gâtée parce que j'ai amorcé ce roman-là en faisant une lecture. Parce qu'éventuellement, ils avaient à faire une lecture expressive en classe.
Mm-hmm.
Et le dernier aussi, qui était Le diable et le champignon.
Ah ben oui, oui.
Que je leur ai lu. Et je me souviens toujours de leur visage quand j'ai dit « OK, je vais vous faire la lecture. » Et que j'ai incarné les personnages.
Une voix spéciale.
Et là, j'ai vu les yeux se lever des livres. Puis ils ont fait « Est-ce qu'on va vraiment passer l'année avec un prof comme ça?
» On peut faire ça.
Oui, mais, oui. Mais je pense que ça, c'était quand même assez gagnant.
D'accord. Et donc, si on...
Oui, on va rouler.
Oui.
Alors, on a eu « Les chevaliers d'émeraude » pour tout l'univers chevaleresque.
De Anne Robillard.
Tout à fait. « Ni vous sans moi, ni moi sans vous »
De Daniel Mativer.
Oui, qui est une reprise magnifique de Tristan Iseult.
Oui.
Toujours dans l'univers chevaleresque.
Mm-hmm.
Ensuite, on est allé avec « Mercure » d'Amélie Nothomb.
Oh mon Dieu, Amélie Nothomb. Ça, c'est un monde, hein?
C'est un monde, j'ai envie de dire un monstre aussi de création.
Ouais.
Et là, on s'est payé quelque chose de particulier parce que comme il y a très peu de personnages, ce sont les élèves qui incarnaient. Donc, on a lu à voix haute le roman en classe.
OK.
Et là...
tout le monde ensemble, là.
Ouais. Il y avait quelqu'un qui faisait le capitaine, Hazel... Françoise, et là, on avait quelques individus qui faisaient des personnages secondaires.
OK.
Ils meurent tous les deux à la fin, d'Adam Silvera, Le Code da Vinci, de Dan Brown.
Dan Brown.
Et là, c'est l'univers des mathématiques dans lequel on va fouiller. Pavel, de Mathieu Simard. Ce que disent les nuages, de Jonathan Arnois, là, qu'ils n'ont pas encore eu entre les mains, mais qu'on va avoir.
Mm-hmm.
Et évidemment, Camille de...
De Patrick Isabelle.
Tout à fait.
Alors, c'est dans le cadre de ce programme-là, Lucie, que vous avez proposé la lecture du roman Camille, publié chez Le Méac. Et pourquoi ce roman-là en particulier, Lucie?
Moi, j'avais lu la série là, « Eux, nous, lui » de Patrick. J'adore son écriture. C'est concis, des courtes phrases. Il va directement à l'essentiel. C'est ciselé comme écriture. Et dans Camille, sans aller trop loin, il aborde un sujet qui est très important, la violence conjugale.
Oui, tout à fait. Vous leur avez proposé de réaliser et de produire un balado pour parler de ce roman. Donc, c'est déjà un moyen d'expression différent, le balado. Chaque équipe a réalisé un balado à propos du roman Camille. Et c'est votre équipe, Maïka, Clara, Lily et Cassandre, qui a été choisie pour l'émission d'aujourd'hui pour présenter votre balado. Pourquoi vous avez aimé parler du livre Camille, mais par le biais du balado? Qu'est-ce qui commence? Clara?
Ben, ça nous pousse à réfléchir un peu plus sur le roman. Parce que tu le lis puis tu l'aimes parce que c'est vraiment bon. Mm-hmm. Mais de réfléchir à pourquoi tu l'as aimé et qu'est-ce qui était vraiment important. Et genre, le style de l'auteur et tout ça.
Ouais.
Donc, ça nous a fait plus réfléchir là-dessus.
D'accord. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut ajouter quelque chose? Maïka?
Le personnage de Camille est un personnage d'à peu près notre âge. Donc, ouais. On n'a pas exactement son âge, mais ça se voit de sa manière, autant d'écrire dans son journal que de parler. Et c'était assez intéressant d'analyser ça et d'en faire un balado.
Oui, oui. Puis dans le balado, on vous entend en parler ensemble de ce livre. Est-ce que vous vouliez ajouter quelque chose, Lily et Cassandre, ou on l'écoute tout de suite? Alors, allons prendre le temps de l'écouter, votre balado. À Image et moi, à voix haute, on présente la chronique Tribune littéraire « Voici ce que j'en pense », où on donne la parole à des jeunes, fin primaire, secondaire, pour parler d'un livre qu'ils ont lu, apprécié. Alors, on vous laisse investir cette chronique. Clara Bessner, Lily Trottier, Cassandre Boulay et Maïka Daigneault, on écoute votre balado.
Tribune littéraire, voici ce que j'en pense.
Bonjour, je m'appelle Clara Bessner et on se retrouve pour une autre chronique littéraire. Je suis avec mes camarades de classe,
Lily Trottier,
Maïka Daigneault,
Cassandre Boulay.
Et aujourd'hui, on va vous parler d'une des œuvres littéraires de Patrick Isabelle nommée Camille. Dans ce livre, on suit Camille, une fille discrète et renfermée, qui chez elle subit de la violence physique de son père. Un soir, sa mère et elle fuient en Acadie. Elle s'installa chez sa grand-mère et quelques mois plus tard, Camille disparut mystérieusement. Dans cette émission, on vous parlera de certains points importants de ce livre et vers la fin, on vous donnera une petite appréciation ainsi que à qui on voudrait le conseiller. Donc sans plus tarder, je laisse la parole à Maïka.
Alors oui, l'une des choses qui me saute le plus au visage en lisant Camille, c'est la structure de l'histoire qui met toute l'ambiance du roman. D'un chapitre à l'autre, on passe du journal de Camille au moment présent. Parfois, un passage de son journal nous permet de comprendre ce qui s'est passé dans le chapitre précédent ou ce qui va se passer dans le prochain chapitre. On sait quand il s'agit du journal, puisqu'il y a des dates au début des chapitres qui nous permettent de nous repérer dans le temps. C'est comme si ce livre était divisé en deux histoires distinctes. Dans le journal, nous avons le point de vue de Camille qui se passe avant sa disparition, qui nous permet de comprendre ses traumatismes, ses doutes et ses peurs, tandis que dans la partie où tout le monde cherche Camille, on a un peu le point de vue de tout le monde. Parfois son cousin, sa tante, le policier, sa mère, etc. D'ailleurs, l'histoire commence de manière assez brusque, puisque tout le monde panique avant même qu'on ne comprenne la situation. C'est une des manières de nous plonger rapidement dans l'histoire.
Les thèmes sont aussi très importants dans un texte, et ceux qui ont été majoritairement mentionnés sont la violence physique et conjugale dans sa famille dysfonctionnelle. Donc le comportement de François envers Camille et sa mère Caroline, et tout ce qu'il leur a fait subir durant ces années. Il y a aussi les responsabilités de Camille envers sa mère et elle-même, les responsabilités liées avec son changement de vie soudain et celle de sa nouvelle famille. Le dernier thème important est aussi les sentiments que les personnages ressentent tout au long du livre, comme les sentiments de crainte, amitié, amour, qui peut aussi nous faire sentir à la place de certains personnages tout au long du texte.
Justement, je trouve ça intéressant, tu parles des émotions qu'elle a vécues, mais d'après vous, comment est-ce qu'elles sont aussi bien transmises?
Je trouve que le vocabulaire joue une grande part là-dedans. À chaque fois que Camille découvre un nouvel endroit ou fait une activité, elle décrit tout ce qu'elle voit et ressent. Par exemple, quand elle et Mathis vont à l'ancienne plage municipale pour la première fois, Camille est émerveillée. Elle nous parle du bruit des vagues, du goût du sel de mer, du ciel si bleu qu'il est aveuglant. Cela nous permet de s'imaginer la scène et de mieux apprécier le livre. Elle décrit également beaucoup ses sentiments par rapport à tout ce qui lui arrive. À cause de ça, on peut mieux comprendre Camille, ce qu'elle vit, et cela nous permet de s'identifier à elle.
Oui, il y a aussi une autre particularité que le vocabulaire apporte.
Oui, chaque histoire a ses particularités. Trouver plus d'une particularité à un livre peut être compliqué à sa première lecture. Pour certains, c'est plus facile. Pour Camille, c'est compliqué. C'est sûr que la manière dont ça a été écrit avec la division du journal et moment présent pourra en être considérée comme une. Mais je trouve qu'il y a aussi la manière dont Camille écrit et nous parle dans son journal. L'auteur fait exprès de ne laisser que quelques phrases, quelques mots comme indice,
comme moyen de mieux comprendre ce que vit et ce que ressent Camille. La météo est aussi une grande particularité du livre. Quand les choses vont mal, il ne fait pas beau dehors. Il pleut, il y a des tempêtes. Alors que quand les choses semblent finalement les mieux, il fait beau et chaud. C'est une mécanique souvent utilisée.
Tu parles des particularités et justement, je trouve que l'époque est une d'elles.
En effet, mais le livre ne donne pas toutes les informations sur le cadre temporel. Premièrement, il est écrit que ça se passe en été, environ de juin à août, et il y a souvent les dates à chacun des débuts de journal. Cependant, nous n'avons pas l'année de l'histoire, mais en revanche, on peut faire une estimation car il y a beaucoup d'indices. On se doute que ça ne se passe pas récemment parce que Camille utilise un Walkman pour écouter de la musique et aussi aucun des personnages se promène avec un téléphone cellulaire.
Je pense que ça fait un tour de qu'est-ce qu'on voulait dire. Maintenant, qu'est-ce que vous avez pensé du livre?
Personnellement, j'ai beaucoup aimé Camille, surtout les personnages du livre. Mon préféré doit être Mathis, son cousin. Je trouvais cela touchant, comment il s'occupait d'elle et qu'il l'écoutait quand elle en avait besoin. Il la faisait souvent découvrir de nouvelles choses et rencontrer de nouveaux mondes. Il passait la plupart du temps avec elle. Je trouve qu'ils avaient une belle relation. On l'a surtout remarqué quand Camille est disparue. C'est lui qui la connaissait mieux que n'importe qui d'autre, et à la fin, il a le plus aidé à sa recherche.
Alors oui, moi aussi, j'ai beaucoup apprécié le livre Camille, même si ce n'est pas normalement mon genre littéraire, mais surtout de par sa facilité de lecture, puisque ce chapitre était assez petit, ce qui nous permettait d'avancer à notre rythme dans l'histoire, et ce qui rendait plus facile la compréhension de l'histoire pour moi. C'est un bon petit roman qui fait réfléchir.
Moi aussi, j'ai beaucoup apprécié ce roman parce que ben, il était quand même assez intéressant et je me suis rapidement prise dans l'intrigue. Par contre, contrairement à Maïka, j'ai trouvé que c'était plus difficile de faire les liens entre le moment présent et le journal de Camille. Dans certains chapitres, mais plus le roman avançait, plus je m'habituais et plus j'ai fini par mieux comprendre. Et même à cause de ça, ben, le livre était quand même génial à lire.
Comme vous trois, moi aussi j'ai beaucoup aimé ce livre. Il parle de plusieurs sujets, souvent très peu abordés, surtout avec les jeunes de notre âge. On voit surtout dans ce livre comment toute la violence que Camille a vécue l'a affectée. On voit aussi le lien qu'elle a avec sa mère, qui devient presque malsain. Elle protège sa mère jusqu'à même oublier qu'elle aussi elle aurait besoin de cette protection. Qu'elle aussi, elle a souffert de cette situation. Je trouve que c'est bien que l'auteur aborde tout ça et qu'on a eu la chance d'être sensibilisé à ce sujet. Ensuite, j'aimerais conseiller ce livre à des gens qui aiment les enquêtes et les histoires touchantes, aussi à des jeunes de notre âge, parce que je trouve ça important qu'ils lisent là-dessus. Pour conclure, merci à vous toutes d'être là.
Merci.
Et aux gens de nous écouter. Bonne journée à tous!
Bonne journée!
Bye! Oh, mesdames, je vous félicite. Vous parlez dans votre balado avec assurance. Votre synthèse du livre est bien présentée. Vous en discutez aisément entre vous. Vous abordez plusieurs critères d'une bonne appréciation et surtout, vous donnez le goût de lire le livre. Ça, c'est vraiment chouette. Bravo à vous quatre. Clara, tu me disais que tu avais un passage du livre que tu voulais prendre le temps de lire. J'aimerais ça.
Ouais. À la fin du journal de Camille, il y a un moment où elle marque que « Je ne crois pas aux fantômes. Ça ne me fait pas peur, ces choses-là. Je sais qu'il y a pire dans le monde. » Et il y a trois petits points.
Ouais.
Et je trouve que ça représente bien les fins de journal. C'est toujours un peu dramatique, puis on sait pas, on se pose des questions.
Ouais.
On a envie d'en savoir plus.
Ouais.
Il y a un mystère là-dedans.
Ça plane, puis ça tient le lecteur en haleine. Ça nous donne le goût d'aller plus loin. Vous êtes toutes des bonnes lectrices, hein? On pourrait profiter de vos suggestions de lecture pour les prochaines semaines. Qu'est-ce que vous lisez pour le plaisir présentement ou qu'est-ce que vous conseilleriez aux auditeurs comme prochaine lecture? On commence avec Cassandre.
Alors, ma proposition, ce serait « Et ils meurent tous les deux à la fin » d'Adam Silvera, parce oui. que moi, j'ai beaucoup apprécié le lire et je l'ai lu quand même assez rapidement, parce que c'était vraiment intéressant.
D'accord, merci. Cassandre, Lily?
Ma recommandation est « Quand Haru était là » de Dustin Tao. C'est un livre que j'ai beaucoup aimé à lire. Je trouvais qu'il était très touchant. On voyait un jeune garçon vivre du deuil de quelques personnes dans sa vie. J'ai trouvé touchant à lire et je recommanderais à beaucoup de personnes.
Oh, merci beaucoup. Et Clara?
Moi, c'est Nos étoiles contraires de John Green. C'est un livre qui parle de la mort, de la maladie, tout ça. Et ben, je trouve ça intéressant, puis c'était vraiment fun à lire.
Bonne suggestion, merci. Et Maïka, on termine avec toi.
Oui, moi, c'est pas un livre en particulier, c'est la série des Artemis Fowl. Mm-hmm. Je l'ai dévoré quand j'étais jeune. J'ai vraiment apprécié. Ça mélange l'enquête et le fantastique. C'était génial.
J'ai beaucoup aimé ça, moi aussi. J'ai lu ça avec mes enfants. Je voudrais vous remercier toutes les quatre, et Lucie aussi. Merci Clara Bessner, merci Lily Trottier, merci Cassandre Boulay, merci Maïka Daigneault. Je vous souhaite une belle fin d'année scolaire, beaucoup de plaisir pendant l'été qui approche. Merci Lucie Vandal.
Merci Marie.
Merci de proposer à vos élèves des suggestions de lecture stimulantes qui sortent des rangs, qui les amènent plus loin. Merci de leur faire découvrir des auteurs, des autrices qui les font réfléchir, et surtout, imaginez un monde meilleur, on en a bien besoin.
Ah, absolument.
Merci.
Merci beaucoup.
Les actuels littéraires.
D'autres idées de lecture et de sorties littéraires. Sur le site de l'émission, on vous met tous les liens vers les événements et activités mentionnés. Dimanche prochain, le 1er juin, à Marie raconte, je lis l'album « L'autre côté » de Jacqueline Woodson et E.B. Lewis, des éditions 2. La mère de Clover dit qu'il n'est pas sûr de traverser la clôture qui sépare leur côté de la ville, du côté blanc, où vit Annie. Mais les deux filles se lient d'amitié et contournent les règles des adultes. Une histoire d'amitié avec la division raciale comme arrière-plan et la métaphore évocatrice d'une clôture qui sépare les noirs des blancs. Un livre qui laisse aux enfants le sentiment qu'ils peuvent rendre le monde meilleur. On en écoute un extrait. C'est bien, sur cette clôture, on peut voir loin aux alentours. J'ai passé ma main le long de la clôture. J'ai tendu le bras. J'en ai touché le dessus. Une clôture, c'est fait pour s'asseoir, a dit Annie en me regardant du biais. Ma mère dit que je ne devrais pas aller de l'autre côté de la clôture, ai-je répondu. Ma mère me dit la même chose, mais elle ne m'a jamais défendu de m'asseoir dessus, la mienne non plus. Du jeudi 29 mai au dimanche 1er juin, la librairie Le Port de Tête vous accueille dans le cadre de la foire commerciale sur l'avenue Mont-Royal à Montréal. Une belle occasion pour amener les enfants à l'heure du compte du samedi 30 mai de 10h30 à 11h30 au 222 rue Mont-Royal. Jusqu'au 6 juin se tiendra l'exposition de Marianne Dubuc au Théâtre de Lac-Brome, au 9 chemin du Mont-Écho, Lac-Brome, ou Knowlton, c'est la même chose. Dimanche 8 juin, de 11h à 17h, aura lieu la première édition du Salon du livre de Vaudreuil-Soulanges au Centre multisport André Chagnon à Vaudreuil-Dorion, salle 1, 2 et 3, au 3093 boulevard de la Gare. Félicitations à Réa Dufresne, finaliste dans la catégorie documentaire français, pour le prix littéraire Hakmatak Children's Choice Book Award avec Le chat, les virus et moi, publié aux éditions Les 400 coups. À travers le récit d'une famille qui s'apprête à accueillir un nouveau chat sous son toit, elle nous offre un documentaire narratif dans lequel elle nous apprend tout ce qu'il faut savoir, ou presque, au sujet des pandémies et de la transmission des virus. On croise les doigts pour Réa. Félicitations également à France Desmarais, qui se mérite le prix Claude Aubry 2024, décerné par IBI Canada pour le service distingué en littérature jeunesse. Ce prix a aussi été remis à Maria Martella. En terminant, soulignons quelques sorties de livres. Chez les 400 coups, une nouvelle édition de « Parle, petit loup » de Claudie Stanquet, illustrée par Barou. Je l'ai rapidement mentionné lors de la dernière émission, mais j'y reviens ici avec ces quelques mots qui résument le propos. C'est l'histoire d'un petit loup qui avait mal aux oreilles. Ça n'avait rien à voir avec une maladie quelconque. Ce petit loup-là avait entendu trop de cris, trop de choses qui lui faisaient mal, et ses oreilles refusaient d'écouter. Dans un contexte familial violent, Petit Loup cherche à dire sa peine à maman, à l'enseignante, à un ami. La honte l'empêche de parler. Ce n'est que dans les bras de grand-maman qu'il pourra enfin dire son lourd secret. Cet entretien en entraînera un autre, cette fois avec le père. Chez deux, le nid d'Emmanuel Simard et Martina Mozzo, c'est l'histoire à braque à la branle de Bill, un cow-boy poète qui mène une vie plutôt paisible et qui se voit tout désemparé lorsque la chaise sur laquelle il s'installe pour poétiser autour du Japon ou encore des rivières d'Amérique se brise. Il tente quelques rafistolages, mais rien n'y fait. Lorsqu'il revient de chez l'ami Jim, inventeur de première, il trouve sa chaise métamorphosée, occupée par une boule de poils. Une rencontre aussi improbable qu'enrichissante s'amorce entre un écureuil qui ne demande qu'un petit nid douillet et cet étonnant jongleur de mots. Aux éditions Planète Rebelle, le rêve de Yoman Day, de Franck Sylvestre et Fré, le conte est également disponible en version audio sur le site de l'éditeur. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je remercie les invités et les collaborateurs, l'autrice Amélie Dumoulin, Virginia Houle pour sa chronique « Coup de cœur de libraire », Lucie Vandal et ses élèves de l'école secondaire de La Pointe-aux-Trembles, Clara Bessner, Lily Trottier, Cassandre Boulay et Maïka Daigneault, dont on a écouté le balado en tribune littéraire « Voici ce que j'en pense », Michel Brûlé pour le soutien à la recherche, Mathieu Tessier en régie, au montage et à la mise en onde, et Jean-Sébastien Laliberté, chef diffusion technique. Je vous souhaite des lectures captivantes. On se retrouve dans deux semaines.